Il est minuit 46 sur Europe 1, c'est votre libre antenne encore pour 14 minutes, le temps d'accueillir Anaïs avec qui nous allons terminer cette émission. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Anaïs, on s'est déjà parlé ?
Non, pas encore, non.
D'accord, très bien. Alors, dites-moi ce qui vous amène.
Alors voilà, moi, donc j'ai vécu une relation particulièrement toxique pendant 6 ans. Donc j'ai 38 ans aujourd'hui.
Oui.
Je voulais revenir là-dessus. Je voulais apporter mon témoignage pour pouvoir justement rassurer éventuellement des personnes qui ont vécu ça ou qui sont là-dedans, pour pouvoir leur dire que oui, c'est possible de s'en sortir, même si encore aujourd'hui, c'est pas gagné à 100%, hein, soyons lucides. Mais toutefois, de par mon expérience et cette relation qui s'est terminée par un viol conjugal,
oui.
C'est ce qui m'a aidé justement à me sortir de cette relation. Je voulais justement parler de tout ça et pouvoir apporter ma force, si je peux appeler ça comme ça. Je suis une survivante, mais je suis aussi une guerrière. Je suis pas qu'une survivante, parce que pour moi, le terme d'être une survivante, comme on le dit souvent dans les médias, c'est pas quelque chose qui me convient, parce que pour moi, survivante, c'est quand même négatif. C'est juste, survivante, c'est quelqu'un qui subit, mais quand on est une survivante,
on peut avoir.
On est une guerrière aussi.
On peut, voilà, être une guerrière, on peut être une survivante parce qu'on a su se battre, se défendre et justement avancer des qualités qui nous ont permis d'être encore en vie. Et être encore en vie, ça s'appelle survivante. Donc, ça n'est pas obligatoirement négatif, hein, Anaïs.
Ouais. Oh oui, c'est vrai.
Bon, mais donc. Vous vous en êtes sorti. Ça fait combien de temps en fait que vous ne vivez plus avec cet homme ?
Alors ça fait maintenant plus d'un an. Donc juste avant le premier confinement, en février 2020, j'ai mis un terme à la relation. Nous nous sommes revus pour avoir une discussion, bah, comme toujours hein, finalement, parce que dans ces relations-là. Il faut toujours discuter, en fait, hein, puisque j'étais encore une fois accusée de choses et d'autres, alors que nous n'étions même plus ensemble. Donc, j'ai voulu me justifier, prouver que non, les choses qui me reprochaient n'étaient pas sa réalité, c'était pas ça, quoi.
Mmh.
Et ce soir-là, il est venu à la maison, j'avais bu. Oui, alors ça aussi, l'alcool, c'est toujours un problème, c'est ce qui nous discrédite dans ces faits-là. Et littéralement, il a profité de la situation et puis pour moi, ça a été la limite en fait. Donc ce soir-là, il a dépassé ma limite. Et comme disait ma thérapeute, si votre limite ça a été ça, faut pas se demander ce que vous avez subi avant quoi. Mais en même temps, je me dis que cette limite, ce que j'ai subi ce soir-là, c'est ce qui m'a sauvée aujourd'hui. C'est peut-être horrible de dire ça, mais le fait que cet homme m'a violée ce soir-là, ça m'a sauvée. Enfin, je sais, ça peut paraître...
Il ne l'avait jamais fait, en fait ? Il ne vous avait jamais forcé comme ça ?
Alors, si, mais ça, je l'ai compris après.
Mmh.
Parce que tant que j'étais dans la relation, l'emprise fait que tout devient normal. Sa normalité à lui devient la mienne, alors que c'est au-delà de mes principes, de mes valeurs. Donc oui, effectivement, il y avait plein de choses dans cette relation qui n'étaient pas du tout normales, y compris au niveau sexuel, des relations, des choses que j'ai faites qui ne me ressemblent absolument pas, que j'ai acceptées et qui, pour moi, devenaient normales, en fait.
Mmh.
Et c'est dingue. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais... Enfin, aujourd'hui, moi, quand... Je m'appelle Anaïs 3.0 parce que je suis passée par plein de phases. Donc l'Anaïs 3.0 ne pourrait jamais plus accepter ça, mais l'Anaïs d'avant, celle qui n'a pas connu lui, n'aurait pas pu accepter ça non plus. Mais l'emprise a fait que on accepte des choses, mais c'est un truc de malade en fait,
oui,
c'est un truc
oui.
de fou.
Mmh. Et ça s'appelle la manipulation, l'emprise.
C'est ça, oui, c'est ça.
Et vous dites donc vous avez porté plainte pour ça, je suppose.
Alors oui, j'ai déposé plainte très rapidement, quelques mois après, mon avocate m'avait dit ça prendra du temps, des années. En plus, on est dans le contexte Covid, il y a d'autres priorités, etc. Ça prendra des années. Ok, donc moi je me suis préparée à des années et au mois d'août, donc j'ai déposé plainte au mois de mars. Et mi-août, j'ai reçu un courrier qui m'annonce que la plainte est classée sans suite, étant donné que il n'y a pas assez de preuves. Mmh. Enfin, évidemment, dans un viol conjugal, il n'y a pas de preuves dans le sens où il n'y a pas de public. Je ne suis pas victime d'un cambriolage ou de... Enfin voilà, donc c'est sa parole contre la mienne. Et les deux versions étaient tellement différentes que... Il y a d'autres priorités, manifestement, et donc ça a été classé sans suite, oui, voilà. Donc moi, aujourd'hui, je me sens littéralement abandonnée par la justice, et cette annonce m'a fait beaucoup plus de mal que les faits de ce soir-là, ou que tout ce que j'ai subi en 6 ans. Je suis plus remontée aujourd'hui, quand bien même remontée, c'est un grand mot, mais je suis plus blessée par la décision de la justice que par ce que lui m'a fait.
Parce que la justice n'a pas réussi à établir ce que vous aviez vécu ce soir-là, parce que je suppose qu'il a nié le viol.
Ah bah évidemment, sa version et la mienne sont deux soirées complètement différentes.
Mmh. Vous n'avez pas vécu la même soirée?
Ah non, non, non. Dans ma déclaration, les faits sont clairs. C'est évidemment un viol qui est établi. Dans la sienne, je participais, j'étais demandeuse, j'avais envie, sauf que, non, ça ne s'est pas passé comme ça, non. Mais bon, la justice ne peut pas accuser sans preuve et condamner sans preuve. C'est ce que je peux toutefois bien entendre, mais en tant que victime, c'est compliqué quand même qu'on ne se sent pas protégé dans son pays.
Ça doit être très compliqué de sentir qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas comprise, c'est certain. Vous avez dû accuser le coup de cette décision.
Ça a été franchement très très compliqué. Et il n'y a pas eu que la justice aussi, il y a tout l'entourage qui croit ou qui ne croit pas. Et il y a l'entourage commun aussi qui croit ou qui ne croit pas et qui ne veut pas trop se mouiller. Et finalement, c'est celui qui fait le plus qui donne le plus de change finalement ou d'attention auprès de cet entourage commun qui gagne. Moi j'ai perdu sincèrement 80% de mon entourage suite à ça.
Oui. Pourquoi en fait?
Parce que le viol c'est moche.
Oui, non mais
j'en parle.
Pourquoi avez-vous perdu 80% de votre entourage? Parce qu'on ne vous a pas cru?
Je ne sais pas si les gens ne me croient pas, mais en tout cas, moi je pense que les gens ne veulent pas être confrontés à ce genre de situation très compliquée. Et le viol, pour les gens, c'est on est violé dans une ruelle par un inconnu, un truc hyper digne de toutes les séries américaines. Sauf que là, c'est un viol conjugal, donc c'est quelqu'un que eux connaissent, etc. Et en plus, on n'a pas le droit d'en parler. Enfin, moi, j'avais pas le droit d'en parler parce qu'on me l'a reproché d'en avoir parlé. On a le droit de parler de sexe, de déconner sur le sexe, à tout va, mais quand c'est un viol, on peut pas. J'aurais été plus entendue et reconnue en tant que victime si j'avais été victime d'un cambriolage ou d'une agression quelconque, mais pas d'un viol. C'est encore, je pense, au niveau de la société, quelque chose qui est compliqué. Parce que ça relève de la sexualité, de l'intimité, et que j'en parle ouvertement. Enfin, moi, j'en parle ouvertement parce que je n'ai rien fait de mal. Je suis une victime d'un fait, point. Quel que soit le type de fait, je suis victime. Mais j'en paye aujourd'hui les frais de cette libération de la parole, comme on dit. Mais c'est pas grave, j'assume. Et je suis fière et je regrette rien. Non, mais je ne regrette pas d'en avoir parlé.
Je pense que vous avez tout à fait raison d'en avoir parlé, déjà. C'est très important de l'assumer, bien évidemment. Et puis, au moins, vous pouvez avoir la tête haute, comme on dit.
Tout à fait, oui.
Parce que...
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est ça qui est le plus important dans tout ça.
Bah, plus d'un an après, avec tout le travail thérapeutique réalisé, et cette forte résilience que j'ai en moi, comme me disait ma thérapeute, j'ai réussi à passer au-dessus de tout ça, j'ai réussi à rebondir et à me dire que oui, j'ai raison d'en parler, je vais continuer à en parler, je n'ai pas à me cacher de quoi que ce soit, je n'ai rien fait. Et encore aujourd'hui, je suis une victime, point, c'est tout. Mais je ne suis pas qu'une victime, hein. Je suis aussi une guerrière, on est d'accord. Je ne veux pas me mettre dans une catégorie, ça, j'aime pas. Je n'ai pas envie de jouer la victime, comme on a tendance à dire. Mais je suis une victime, et ce n'est pas moi qui suis responsable de tout ce qui s'est passé. Alors, effectivement, oui, il y a peut-être plein de gens qui m'ont tourné le dos. Et aujourd'hui, avec toute la sagesse que j'ai, je ne leur en veux même pas, en fait.
Non, parce que de toute façon, il n'était pas là pour voir tout ça et ces histoires-là, vous le savez, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très facile de faire croire qu'on n'a pas vécu la même soirée, surtout. Et donc, tout dépend de la force que l'on peut mettre dans le récit. Hein, et si votre ex-conjoint est plutôt doué pour raconter ses versions, souvent, l'entourage... adhère à celui qui sait le mieux s'exprimer et qui sait finalement le mieux embobiner. Généralement, les victimes parlent de manière très fluide et racontent les choses comme elles se sont passées. Et malheureusement, en face, voilà, elles s'opposent à quelqu'un qui réenjolive les choses, qui les maquille, qui les cache. Et vous avez raison de dire que vous ne leur en voulez pas. Parce que seul le temps leur montrera qui vous êtes, vraiment. Et vous avez raison d'entamer ce combat. On n'a plus que 30 secondes, Anaïs, si vous voulez rajouter quelque chose.
Ben, je veux juste dire aux gens qui m'ont toujours soutenue, qui ne m'ont pas lâchée, que je les aime profondément et que toute ma vie, je leur en serai reconnaissante. Il n'y en a pas beaucoup. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pas grave. Et comme on dit, hein, ça peut paraître con, hein, les vrais amis, les vraies personnes, on les compte sur les doigts de la main. Mais ça peut paraître bateau, mais c'est la réalité, quoi. C'est vraiment ça. Et j'ai compris ça maintenant. Cette expérience de vie m'a permis de comprendre que oui, effectivement, on les compte sur les doigts de la main, les vrais.
Et puis, c'est ceux-là qui restent et qui sont les plus importants. Je vous embrasse. Passez une bonne fin de soirée, Anaïs, et puis courage dans le combat qui est le vôtre aujourd'hui. Bon courage.
Merci.
Au revoir, Anaïs.
Merci beaucoup. Au revoir.